Ce jour-là, j'ai eu un immense choc, en fait. J'en ai eu un si grand que je n'en ai jamais parlé.
En fait, adolescente, je me sentais déplacée, comme un geste ou comme une parole peuvent être déplacées.
En famille, en amour, au travail, en société, trouve-t-on jamais tout à fait sa place ? Ce sentiment d'être en adéquation avec soi-même, de se rapprocher de la personne que l'on a l'ambition d'être. Une carrière pertinente qui nous rend heureux, un entourage qui nous aime pour ce que nous sommes, une vie qui nous ressemble ou tout du moins nous trahisse le moins possible. Parfois, ce sentiment de cohérence arrive vite, parfois plus tard, quelquefois jamais. Le plus souvent, il se déplace par vagues. Je suis Marion Ruggieri et dans le podcast Les Vagues, un tout nouveau podcast de Elle, j'interrogerai des personnalités sur le moment où elles se sont senties à leur place pour la première fois, mais aussi le moment où elles se sont senties déplacées. Je me rendrai chez elles ou dans un lieu cher à leurs yeux pour qu'elles me racontent ce jour fondateur où elles se sont dit « Là, je suis bien, je suis là où j'ai toujours voulu être et c'est moi ». Découvrez et écoutez Les Vagues à partir du 24 octobre sur toutes les plateformes de podcast. Bonne écoute.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Elle s'attable. Le podcast des femmes qui changent le monde via nos assiettes.
Depuis l'aube de l'humanité, les femmes nous nourrissent. Aujourd'hui encore, elles produisent plus de 70% de la nourriture consommée dans le monde et cuisinent la quasi-totalité des repas. Elles sont aussi nombreuses à s'investir pour une alimentation de meilleure qualité. Chefs réputées ou talentueuses méconnues, elles sont les invitées de notre podcast Elle s'attable.
Elle s'attable.
Au fil des mots et des rires, elle nous explique comment, en traçant leur route, elles inventent les chemins gourmands de demain.
Elle s'attable. Une émission présentée par Danielle Jerkens, directrice de la rédaction du magazine Elle à table.
Bonjour, bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast Elle s'attable, le podcast du magazine Elle à table. Nous sommes aujourd'hui sous la coupole du printemps, le grand magasin des Parisiens et des Français, dans le restaurant qui est animé pendant 6 mois par Héloïse Brion, l'âme de Miss Maggie's Kitchen. Héloïse Brion, bonjour.
Bonjour Danielle.
Elle s'attable.
Vous êtes la deuxième à signer la carte. Vous êtes la créatrice d'un univers qui s'appelle Miss Maggie's Kitchen. Et vous avez, à travers cet univers, pu vous réinventer totalement dans une direction qui n'était pas du tout celle vers laquelle vous alliez au départ. Petite chose, tout d'abord, qu'est-ce que Miss Maggie's Kitchen ?
Ouais, alors Miss Maggie, ce n'est pas moi, mais en fait, c'est notre maison. En 2015, on a acheté cette vieille bâtisse, ce pavillon de chasse, qui est vraiment niché au milieu de la campagne normande, dans le pays d'Auge, un petit peu tout en hauteur. C'est une maison qui avait été construite en 1895, qui a vécu beaucoup de choses, et on trouvait qu'elle avait un côté un peu vieille anglaise. La campagne autour fait vraiment campagne anglaise. Donc voilà, on l'a baptisée Miss Maggie. À l'époque, je travaillais encore dans la mode, et c'est qu'un an plus tard que j'ai écrit pour la première fois Miss Maggie's Kitchen sur un petit livret de recettes pour le partager avec des amis et la famille.
Cette réinvention de soi, qui aujourd'hui est quand même une très belle réussite, on va un peu la raconter, c'est parti de quelque chose de totalement impromptu et totalement inattendu, sans une vision de se dire je vais monter un projet, un business et je vais en faire ma vie.
J'ai jamais imaginé pouvoir vivre de mes passions et de tout ce que j'aime. Donc c'est sûr que c'est ça se fait avec l'instinct, les rencontres, mais c'était pas du tout prévu.
Vous nous avez dit tout à l'heure, Héloïse Brion, que vous étiez dans la mode. Vous avez passé 15 ans dans la mode. Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, vous vous êtes éloignée de cet univers-là ?
Alors, ça va être très cliché, mais l'année de mes 40 ans, j'ai fait un gros burn-out. C'était pas forcément lié qu'à mon travail. J'avais deux enfants en bas âge. J'essayais d'être un peu parfaite en tout. La mère parfaite, la femme parfaite au travail, l'amoureuse ou amante parfaite.
La compagne,
exactement.
Enfin, l'amie parfaite.
Voilà, tout était parfait, sauf qu'à un moment donné, je pensais plus du tout à moi. Et c'est un petit peu la cocotte qui a explosé.
Vous vous éloignez de la mode et... Est-ce que vous diriez, Loïse, que vous avez trouvé refuge dans la cuisine ?
Alors, je pense que la cuisine avait toujours fait partie de moi, de mes passions, depuis toute petite. Mais c'est quelque chose que je partageais vraiment avec les amis, la famille. Et c'est grâce à Christophe, mon mari, il m'a dit « Pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas un petit livret de recettes ? Tout le monde te demande tes recettes, tu les écris à la main. Mais faisons un petit livret de recettes qu'on va imprimer pour les amis et la famille. » Et c'est vrai que le fait de remettre les mains à la pâte, de façon mais vraiment physique, ça m'a aidé à me recentrer, à retrouver un petit peu une harmonie. Et,
de l'énergie.
Et à me nourrir aussi, alors pas que physiquement, mais vraiment mon cœur, mon esprit. Et je pense que pour moi, justement, un bon repas, quand il est fait maison avec amour, ben on le crée avec ses mains et c'est essentiel. Il y a beaucoup de métiers où on pianote, on double tape, mais on ne crée plus avec ses mains. Donc si on n'a pas un hobby où on fait soit de la peinture, du dessin, de la broderie,
du jardinage,
de la céramique, voilà, même pour soi, je pense que très vite on s'éloigne de tout ça et on se perd un petit peu.
Elle s'attable.
Donc ça commence par un petit livret de cuisine que vous offrez à la famille, aux amis. Ouais. Et très vite, ça prend de l'ampleur. Moi, j'ai eu l'occasion de recevoir les fameuses box.
Ouais,
parce qu'après le petit livret, sont venues les box. Alors, qui avait-il dans les box, Héloïse Brion ?
Le premier livret avait été envoyé, enfin offert fin 2016 à la famille et aux amis. Et puis, en fait, des personnes que je ne connaissais pas ont commencé à me contacter pour le recevoir. J'en avais plus. Enfin bon, c'était assez... Je le ferais gratuitement, comme ça. Je le ferais vraiment à des gens que je ne connaissais pas. Et les box, en fait, c'est venu parce que j'adore le voyage. J'adore découvrir des artisans. Et donc, je voulais mettre un petit peu mes coups de cœur de la saison. Mais vraiment, c'était pas du tout un bon business plan parce que c'était travailler qu'avec des artisans. Du coup, ça me coûtait cher de les acheter, puis assez, et je voulais pas des formats échantillons, je voulais des vraies choses. Il y en avait 5-6 par box, il y avait aussi un petit livret de recettes, mais du coup c'était vraiment l'atelier lutin dans la salle à manger pour tamponner les box, pour trouver des rubans, les remplir, mettre un petit mot personnel pour chacun à chaque fois. Enfin, c'était c'était le tout début.
C'était le luxe du coffret.
Exactement, le luxe du coffret qui avait été lancé en juillet 2017, en même temps que le site, etc. Mais c'était vraiment le tout début de tout ça.
Vous collaborez rapidement avec des magazines. Je dois dire que nous nous connaissons, puisque à l'époque, vous avez fait les fiches cuisine du L pendant un bon moment.
Exactement.
Est-ce que ça vous a permis, Héloïse, aussi d'avancer sur un projet de... Vous voyez, presque de structuration, de...
Ah bah c'est sûr, parce que c'est très différent de travailler dans sa petite cuisine, se dire, tiens, je vais partager nos deux recettes, on fait 2-3 photos comme ça, et tout d'un coup, d'être exposé via la presse, via... Enfin, moi, c'est vrai que je pense que... Enfin, nous, c'est sûr que toutes les fiches, tout d'un coup, quand j'avais une commande d'une dizaine de fiches recettes à faire en 15 jours, je me suis dit, oh là 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 là. Mais du coup, oui, il faut structurer, il faut s'organiser, et ça devient un travail quand même entre guillemets, quoi.
C'est... Un premier livre va sortir.
Ouais, en 2019.
Voilà. Un deuxième vient de sortir.
Ouais, tout à fait.
Cette fois-ci, alors le premier était un recueil de cuisine, 100% de recettes. Le deuxième, c'est plus sur l'art de recevoir. Ouais. En quoi cet art de recevoir est important ? Et je le dis d'autant plus parce que dans l'univers Miss Maggie, on n'est pas uniquement dans la cuisine pure et dure, mais on est vraiment dans un univers au sens large, avec tout ce qui va autour, la mise en scène, le choix de la vaisselle, la décoration... l'atmosphère qui va autour.
Oui, parce que pour moi, en fait, c'est tout un voyage qu'on offre. Et c'est vrai que quand on invite des personnes à venir à sa table, la première chose qu'ils vont voir, c'est du coup la table. Ensuite, ils vont sentir les odeurs d'un plat qui est en train de mijoter. On va entendre la musique ou l'ambiance, puis les rires. On va goûter, on va toucher la nappe ou les petites attentions qui ont été mises sur la table.
C'est multisensoriel.
Tout ça, c'est un tout. Et c'est vrai que souvent, les gens disent « Oh là là, mais ça va coûter très cher », et en fait, pas du tout. Alors, quand on a la chance de vivre à la campagne, on peut aller dans son jardin, cueillir une ou deux branches, trouver un peu de lierre, etc. Mmh. Mais même sinon en ville... Quand on vivait à Paris, j'allais voir mon fleuriste, je lui demandais de me trouver des petites choses dans des parcs. Enfin bon, on trouve toujours des façons avec des jolis produits, des jolis citrons. C'est sublime aussi. Mais je trouve que c'est un voyage qu'on offre et c'est ça qui ancre un petit peu le souvenir. Si c'est très bon dans l'assiette, mais tout le reste est un petit peu laissé dans tous les sens, je trouve que ça c'est pas la même chose.
Il y a un mot que vous utilisez souvent, qui est le mot voyage. En quoi le voyage et les voyages vous ont structuré ?
On repousse ce dont on a peur, enfin parce qu'on ne le connaît pas. Et le voyage, c'est inspirant. On découvre d'autres saveurs, d'autres façons de vivre. Ça nous permet de prendre du recul par rapport à nos vies, de se rendre compte de comment sont les vies ailleurs. Ça nous enrichit. Et c'est pour ça que je voyage moi, avec mes fils, en tout cas depuis qu'ils sont très jeunes. Et alors les gens me disent ah là, ils vont jamais s'en souvenir, mais si. En fait, je pense qu'il y a plein de choses qui s'imprègnent comme ça de moments, de voyages qui peut être très simple. Je les emmène au marché, on regarde ce que les gens achètent, on regarde comment les gens sont habillés, leurs rituels autour du repas. Est-ce qu'on mange avec les mains ou est-ce qu'on mange avec quelle main aussi? Parce qu'il y a des cultures, il ne faut vraiment pas utiliser la main gauche. Enfin bon. Et tout ça, je trouve que ce sont des choses qui nous enrichissent et qu'on ramène tout ça avec nous. Ça fait une ouverture sur le monde qui, je pense, fait beaucoup de bien aux uns et aux autres.
Quand tu voyages à l'étranger et que tu essaies la cuisine locale, tu as peut-être déjà constaté à quel point les manières à table sont très différentes des tiennes. Mais franchement, qui pourrait deviner que demander du sel et du poivre pouvait être considéré comme impoli dans certains pays ?
Changement d'ambiance dans ce grand restaurant japonais. Ici, au menu du petit déjeuner, il y a du saumon grillé. Surprenant, certes, mais typique, au pays du soleil levant.
Sur les tables de ce restaurant éthiopien, pas de couvert. Chez Sisai, on mange avec ses doigts ou avec ceux du patron.
Vous avez déjà essayé de manger des baguettes déjà ou non, vous avez...
J'ai essayé, oui. Mais je prends un grain de riz par un grain de riz, donc c'est pas évident.
Pour éviter de vous en mettre partout, mangez tout près du bol. En Asie, ça n'est jamais mal vu.
Merci, monsieur, c'est très gentil. C'est une leçon de savoir-vivre.
C'est naturel.
Vous avez eu la chance, Héloïse, de goûter ce voyage très jeune vous-même, puisque vous avez grandi aux États-Unis. En partie en Floride, si ma mémoire est bonne.
Tout à fait.
Et d'ailleurs, votre univers est baigné d'influences anglo-saxonnes également. Qu'est-ce que cette première partie de vie, qu'est-ce que cette enfance américaine a pu faire infuser chez vous ?
Les Américains, ils ont quand même ce côté très positif déjà. Donc je pense que c'est pour ça que j'ai aussi ça en moi, alors aussi certainement de mon père, mais ce côté positif d'y aller, et pas le côté on se plaint, on est victime de la vie, des choses et tout, mais on y va, on avance. Quand on veut quelque chose, alors il faut travailler, mais on y va. Et ce côté décomplexé. C'est vrai qu'en France, je le vois par rapport à des amis, c'est quand même, on est dans des rails, et enfin, ça change un petit peu, je trouve, avec le temps, mais il y avait ce côté, on a fait telles études, on fait telles choses, etc. Et du côté décomplexé des Américains, où tout est possible, on peut être médecin un jour, mais artiste le lendemain, mais c'est aussi vrai dans la cuisine. Ils aiment recevoir les gens, ouvrir leur maison, faire des jolies décorations, mais il n'y a pas un côté un peu strict et guindé, etc. Tout le monde se sent bien autour d'une table. Et c'est ce que j'aime mélanger, je pense qu'avec le côté français, peut-être alors des recettes, je ne sais pas, des recettes franco-françaises, mais
un peu bon bourguignon d'ailleurs, je tiens à le dire.
Mais certaines, oui. J'aime mixer un petit peu, rajouter des noix de quand des cranberries, et ça c'est un petit peu le côté américain, mais sinon c'est ce côté, j'ai envie que les gens se sentent à l'aise autour d'une table et heureux d'être là, qui s'ouvre, parce que le repas finalement c'est un moment de partage unique et donc on a envie que les gens se sentent bien pour pouvoir vraiment s'ouvrir et échanger sur des sentiments profonds souvent même.
Nous sommes au printemps donc aujourd'hui pour l'enregistrement de ce podcast. Vous signez la carte de cette nouvelle saison, donc d'octobre jusqu'à la fin du mois de mars.
Exactement.
Comment en arrive-t-on d'un projet qui au départ n'est même pas un projet, qui est un hobby, à signer la carte d'un restaurant, d'une table, d'un emblème de la France, de Paris et de la France ?
Alors, j'ai vraiment pas la recette pour tout ça. Mais c'est vrai que je pense que, en fait, depuis le début de cette aventure, les choses se tissent de façon assez naturelle. Et je pense vraiment que quand on est là où on doit être, et qu'on écoute sa voix intérieure et qu'on fait ce qu'on doit faire, c'est là où on est déjà le plus authentique. Donc les choses se mettent en place, c'est un peu les planètes qui s'alignent si on veut, mais...
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***?
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
C'est un peu les choses, les rencontres se font, etc. Mais en plus, c'est là où on donne le meilleur de nous-mêmes. Et donc, du coup, les choses avancent. C'est vrai que j'essaye pas du tout, je ne dis pas de rentrer dans une mode de par rapport à un certain, enfin, des régimes alimentaires. J'essaye pas de faire plaisir à certains. Je suis vraiment mon chemin et je pense que c'est ça qui fait que, bah, du coup, ça parle aux gens. Il y a beaucoup d'émotionnel, finalement, des souvenirs d'enfance. Là, c'est vrai qu'à la carte, j'ai voulu mettre un gâteau au chocolat. Pour moi, c'est vraiment un souvenir des anniversaires d'enfance, pas aux États-Unis parce qu'il n'y avait pas toute la crème, mais vraiment français. Mais voilà, je trouve que tout ça touche les gens. Alors c'est vrai que là, ça a été une superbe rencontre avec le printemps. Je me pince encore, je me dis que c'est quand même...
je témoigne que vous y êtes.
Voilà.
Puisqu'on enregistre aujourd'hui dans le restaurant.
Voilà. Non, c'est fabuleux. Puis c'est une histoire aussi de rencontre avec le chef Clément Blondeau qui est ici. Et donc, le travail en commun de partir de mes recettes imaginées dans ma cuisine, comment les traduire pour des plats qui sont servis à l'assiette au restaurant, avec Emmanuel Touboul qui m'a dit, mais s'il y a des gens avec qui tu veux travailler, dis-nous. Donc du coup, j'ai pu faire venir les légumes des Gone Girls Farm à Gonneville en Normandie, qui sont elles aussi, c'est une reconversion pour elles, mais aussi les vinaigres de la maison Le Paulmier, le cidre de Florian qui est vraiment le meilleur cidre fermier au monde. Mais donc c'est vrai que j'ai pu chiner de la vaisselle pour apporter un petit peu ce côté dépareillé et d'y amener vraiment mon univers. Donc c'est une vraie belle chance. Et puis j'apprends énormément aussi. C'est d'avoir un restaurant, mais déjà avec le personnel en place et toute cette belle clientèle qui vient ici au printemps, dans ce lieu mythique.
Combien de couverts par jour dans votre restaurant ? Entre guillemets.
Alors ça, il faudrait leur demander. Je sais pas exactement. Je sais qu'on peut avoir 150 couverts, mais ça tourne parce que c'est en continu finalement. En tout cas, le déjeuner de midi jusqu'à 20h. Donc c'est vrai que c'est il y a des Américains qui viennent à 15h30 pour un bourguignon. C'est quand même.
Ils ont raison. Ils ont raison. Je les encourage.
C'est pas mal.
C'est une question qu'on pose souvent à nos invités. Parce qu'on nous la pose souvent, d'où vient votre créativité ? D'où viennent vos idées ?
Ça vient de plein de choses. De voyage, on reparle de voyage, mais vraiment de voyage. Alors quand je suis moins à Paris, je marche un peu à Paris, mais sinon j'aime bien aller à la campagne, me lever tôt et aller marcher une heure et quart en pleine nature, à travers tout un petit sentier, à travers des champs, une forêt, etc. Et je trouve que le lien avec la nature, finalement, je suis en marche vraiment, avec mes pieds, mais ma tête, du coup, ça permet de résoudre des choses, des petits obstacles, des doutes que j'ai, mais aussi de faire rentrer aussi énormément de créativité. Je trouve que le lien avec la nature est essentiel. Sinon, ça peut être au marché, tout d'un coup, je vais voir des produits magnifiques et ça va me donner envie de tester une recette. Enfin, ça peut être des choses. Une expo, par exemple, j'adore Frida Kahlo. Donc là, je vais aller voir l'expo qui est en ce moment à Paris et ça me nourrit aussi énormément. Donc tout ça, en fait, ça fait un petit mélange, comme pour une recette, hein, tous mes petits ingrédients et hop, sort le plat.
Quelle importance a eu et ont eu les réseaux sociaux dans le développement de Miss Maggie et de votre projet en général, Héloïse ?
C'est intéressant parce que c'est vrai que moi, ça ne rentre pas du tout dans le business plan. Je n'en vis pas, je ne fais pas tout ce qui est sponsorisé. Mais je trouve fabuleux quand même de pouvoir communiquer et de toucher la personne qui va être ma voisine, peut-être en Normandie, mais aussi une personne qui est à l'autre bout du monde et que tout d'un coup, cette personne va découvrir une recette, on va avoir un échange. Pendant le confinement, le premier confinement, c'est vrai que j'ai fait des lives presque tous les jours et ça a créé, tout d'un coup, on avait les gens qui nous disaient où ils étaient dans le monde. C'était incroyable. Ça crée quand même des liens. Maintenant, c'est vrai que j'ai voulu pouvoir rencontrer les gens parce que je trouvais que quand même il y a quelque chose de bizarre de communiquer avec des gens via des pseudos, des choses, etc. sur les réseaux. Et donc c'est vrai que c'est là d'être ici au printemps par exemple, ou la petite boutique que j'ai ouverte à Pont-l'Évêque, de rencontrer les gens en personne, de mettre des visages sur des pseudos, des noms, etc.
En vrai,
c'est quand même ce que je préfère. Mais les réseaux, c'est formidable en effet
pour diffuser,
pour être connu, pour communiquer, voilà.
Alors, merci. Alors, c'est formidable parce que, Héloïse, vous faites les transitions. C'est merveilleux. Vous avez effectivement ouvert une boutique à Pont-l'Évêque dans laquelle il y a différentes choses, dont votre collection Parsley.
Exactement.
Qu'est-ce que c'est ?
Ça veut dire persil en anglais, parce que je cherchais un nom pour cette collection Art de Vivre. Et c'est vrai que j'adore sage en anglais, qui est la sauge en français, mais ça fait sage en français. Je voulais certainement c'est pas être sage. Ah, je voulais pas du tout être sage. C'est rigolo parce que je pense que le persil, c'est une des herbes que j'utilise le moins, mais c'était le nom parfait pour cette collection. Et donc, il y a aussi bien des choses que j'imagine et que je dessine. Quelques pièces des vêtements, mais des tabliers, de la papeterie, des bougies, enfin voilà.
Des allumettes,
des super beaux torchons en 100% lin fait en France, de la vaisselle chinée, parce que j'avais commencé à chiner de la vaisselle, moi, vers l'âge de 12-13 ans. C'était tellement, pour moi, exotique quand j'entrais en France des États-Unis, cette vaisselle comme ça qu'on trouvait dans les petits villages paumés, pas loin de Périgueux, entre Périgueux, les Pyrénées, etc. Donc il y a ça. Des choses que je fais en collaboration avec des personnes comme une céramiste de mon village, Sandrine Badarello en Normandie, mais aussi on va sortir là un balsamique de pommes macérées à la cannelle avec Benoît de la maison Le Paulmier. C'est un petit peu tout mon bazar. Et puis des choses, je veux montrer des produits qu'on ne trouve pas partout. Je voulais aussi montrer que certains produits américains sont quand même très très bons. C'est pas que plein de sucre et de conservateurs et tout. Donc il y a des super bonnes pizzas, enfin sauce à pizza, etc. Et sauce tomate, etc. Des ingrédients frais, sans sucre, etc. Dedans. Enfin voilà, c'est un petit peu toutes les choses mes coups de cœur. C'est quand même une grande box en fait finalement.
Voilà, dont on trouve une petite version au printemps en même temps que ce restaurant.
Exactement, à l'entrée du restaurant. J'ai recréé un mini parsley à l'entrée ici.
Elle s'attable.
Puisqu'on est au restaurant, attablé à l'une des tables du restaurant qui en fait suit le bord du grand magasin, avec des petites terrasses extérieures extrêmement lumineuses. Qu'est-ce qu'on y mange ? Qu'est-ce que vous avez ? Parce qu'il a fallu faire un choix, il a fallu faire un tri dans toutes vos recettes, dans tous vos amours gustatifs. Ouais. Qu'est-ce que vous avez mis à la carte de ce restaurant, Héloïse ?
Ça va évoluer forcément, parce que sur 6 mois, on va évoluer en fonction des produits, etc. Mais c'est vrai qu'en entrée, il y a la soupe d'orzo et citron, qui est délicieuse, avec des pois chiches dedans, un petit peu d'épinards, de la sauge, des feuilles de sauge un peu crispy. C'est très réconfortant, et puis c'est plein de vitamines. C'est parfait pour préparer son système immunitaire aux journées un petit peu fraîches. Il y a la tarte butternut et avec la fondue d'échalotes, des couteaux en persillade en ce moment.
Mais excellent.
Il y a aussi le bœuf bourguignon de Jacques, mais aussi des pâtes shiitake, patates douces, le gâteau au chocolat, vraiment le souvenir d'enfance, la tarte au citron de Franou, qui est ma maman. J'ai mis des années à avoir sa recette.
Elle l'a fini par la donner.
La seule chose que j'ai changée, c'est que j'ai ajouté des pignons toastés dans la pâte. C'est pour ça que j'adore faire les pâtes maison, parce que je trouve qu'on peut y ajouter des épices, des noix, des choses, etc., des herbes. Et donc là, j'ai juste ajouté des pignons toastés, et c'est vraiment pas mal. Une poire feuilletée aussi avec une boule de glace noisette. Puis on va développer d'autres choses aussi, parce que moi j'adore le tea time, qu'il soit salé sucré, un brunch, etc. Donc c'est vrai que ça va évoluer. Et j'ai voulu penser aux enfants. Je trouve qu'aux États-Unis, ça c'est le côté américain, mais aux États-Unis, dès qu'on arrive dans un restaurant avec des enfants, on nous donne tout de suite un set de table ou une petite page d'activité avec des crayons, etc. C'est le plus grand bonheur des enfants, mais le plus grand bonheur des parents aussi, qui sont tranquilles et du coup, il n'y a pas trop d'écran, etc. Et donc, du coup, on a fait aussi des sets pour de table avec les enfants, avec le printemps qui est représenté, etc. Et des mots cachés, etc.
Héloïse, quand vous regardez votre parcours, quand vous regardez les 6-7 dernières années, est-ce qu'il vous surprend ? Est-ce qu'il était inattendu ?
Complètement. En fait, j'oublie. J'ai toujours l'impression de ne pas faire assez. Mais j'ai dû très récemment, pour une interview, écrire noir sur blanc un petit peu tout ce que j'avais fait en 5 ans finalement. Ça fait 5 ans depuis juillet 2017. Et là, je me dis, ah oui, on a quand même fait pas mal de chemin. Il y a énormément. Et puis on teste des choses aussi, des formules, même sur le site, avec la formule sur abonnement, avec du contenu exclusif, etc. Mais c'est ça qui est formidable avec aujourd'hui, c'est que avec le digital, on peut tester des choses, ça marche pas, on ajuste, etc. Mais oui, je suis très très surprise. J'ai encore du mal à réaliser. Pourtant, j'ai encore énormément d'idées et d'ambition, de choses que j'ai envie de réaliser.
Alors justement, comment pourrait se dessiner l'avenir de Miss Maggie's Kitchen ?
J'adorerais ouvrir un lieu un peu plus grand à la campagne, avec un espace boutique toujours, un espace restauration et un espace pour tout ce qui est atelier. culinaire, mais aussi autour de l'art de la table, créatif, etc. On en fait quelques-uns à la campagne, mais dans la boutique, mais je peux pas. Pour l'instant, j'ai pas de cuisine là-bas. Donc, on a fait un atelier d'écriture sur les souvenirs de repas mémorables. Et je trouve que les gens ont un talent fou. D'ailleurs, de temps en temps, ils sont même surpris eux-mêmes. Là, on va faire quelque chose avec parents-enfants aussi. Mais voilà, j'ai envie de voir plus grand, de développer plus de produits, un autre livre, pourquoi pas un podcast ou une émission. Enfin bon, tout est.
Une question qu'on pose souvent à la fin de ce podcast, c'est le rapport des femmes du monde, de l'alimentation et de la transformation du monde. Est-ce que vous diriez, vous aussi, Héloïse, que les femmes ont le pouvoir de transformer le monde à travers les assiettes ou pas ?
Alors je pense qu'elles ont le pouvoir déjà, oui, de transformer le monde, déjà de se transformer elles aussi. Je me rends compte que j'ai quand même beaucoup de femmes, moins maintenant, mais au début, qui m'écrivaient, qui étaient très complexées par rapport à la cuisine, parce qu'on était quand même toute une génération aussi de femmes, de mères, enfin comme la mienne, hein, 68ardes, qui ne cuisinaient pas, qui voyaient ça pas comme un plaisir, mais un devoir. Et donc, du coup, beaucoup n'osaient pas. Et maintenant, elles m'ont écrit beaucoup en me disant maintenant, on va oser, mais on va oser dans la vie, j'ai jamais eu autant de compliments, etc. Et donc, du coup, je pense que tout ça, ça retransforme, et ça retransforme aussi, du coup, les liens qui peuvent se créer autour d'une table, parce que si elle est heureuse de recevoir, il n'y a pas. Enfin, voilà, c'est plus la même image. Et je pense que tout ça, en effet, on a ce pouvoir-là de faire goûter de bons aliments, alors que ce soit nos familles, mais nos amis. Et en fait, tout est mécanique. Après, c'est travailler avec des bons producteurs, c'est bien sourcer les choses de façon locale, etc. Et de transmettre tout cette joie, ce bien-être et ces bons goûts. Donc oui, je pense que tout à fait, tout part d'un repas. En fait, il se passe plein de choses autour d'un repas. Des magnifiques rencontres.
Merci infiniment. Et d'ailleurs, j'invite tout le monde à venir au printemps pour peut-être transformer le monde autour d'un de vos plats, d'une de vos assiettes. Merci beaucoup, Héloïse, pour ce moment.
Merci, Daniel.
C'est donc le nouvel épisode du podcast Elle s'attable. N'hésitez pas à le commenter, le liker, mettre des étoiles, le partager. Et on vous donne rendez-vous très prochainement pour un autre épisode.
Elle s'attable. Le podcast des femmes qui changent le monde. Via nos assiettes. Elle s'attable en podcast sur toutes les plateformes de streaming.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Late bloomers tend to have more curiosity. They tend to have more resilience.
There are stories and mythology that this country has woven around black men.
This is the cavalry, right? These are the leaders, the hometown heroes and local leaders that we are.
It's a survival mechanism to just be like worried of police.
What if everything we've been taught is just all wrong?
What's worth more than this fear right now?
And that rising after failure is part of the glory of being a human being.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.